France Culture.
Bonjour Marine Zell.
Bonjour Caroline.
Vous voyez, j'ai dit Zell, un peu entre le sel et le zèle. Je me rapproche de l'allemand.
Vous êtes parfaite. Oui.
au cinquième et dernier épisode de ces Awanu, il est temps, vous me direz. Alors j'ai intitulé ce dernier épisode « Momo en Inde ». Momo parce que c'est grand-mère en tibétain et c'est comme ça, je crois, que vos petits-enfants, au nombre de 10, à qui votre livre « Tout est là » est adressé, vous appellent. Et pourquoi Momo en Inde ? Ben parce que nous allons parler de l'Inde, notamment dans cet épisode, l'Inde où vous avez longtemps habité et l'Inde où vous continuez d'aller. Avant peut-être de partir en Inde et pour nous permettre de partir en Inde, je voudrais que vous nous parliez des maisons, parce que les maisons ont été très importantes dans votre vie. Je m'en suis rendu compte en lisant « Tout est là ». Les maisons sont presque un personnage à part entière pour vous. Il y a eu les boissettes, que vous avez appelées les garennes, la maison de la place des Abbesses à Paris, que vous avez très longtemps occupée, et la maison de Pondichéry, donc, où vous avez vécu quelques années. On est ici dans votre nouvelle maison, qui n'est pas une maison, qui est un appartement à Paris, dans le 9e arrondissement, mais qui est occupé par beaucoup d'objets qui viennent un peu partout, alors de l'Inde notamment, je crois. Il y a des petits Bouddhas, à droite à gauche, qui nous regardent, par exemple. Donc, les maisons, les lieux, ça, c'est pas important pour tout le monde. Pour vous, c'est important?
Oui, c'est quelque chose qu'on a déjà un peu abordé par rapport à la Heimat, non? Ce que je disais de la Heimat. Et que je peux pas vraiment désigner une Heimat, parce que mes parents, ils ont été chassés de Pologne. Après, les gens migraient à l'intérieur de l'Allemagne pour délaisser une partie de l'Allemagne et s'installer dans l'autre. Et après, avec le poids du passé allemand, je pouvais plus respirer en Allemagne, la connaissance que j'avais entre-temps de ce qui s'y était passé. Donc je suis parti en France. Donc je suis devenu de plus en plus heimatlos, donc son heimat, son patrie. Et donc j'avais cette nécessité, enfin en moi, de créer en fait une heimat, non, pour moi, enfin pour ma famille, pour les enfants. Voilà, c'est toujours ce qui m'a motivé quand on a acheté à Boissette la maison. Avec Georges, tout au début, quand on s'était rencontrés.
Avec Georges, votre mari.
Georges, mon mari, oui. La vision que j'avais, c'est une prairie où il y a des enfants qui courent sur la prairie. Enfin, une vision idyllique, non, de...
Un petit paradis.
Un petit paradis. Oui. Comment être chez soi. Voilà. Ça m'a toujours...
Le chez-soi est donc très important. Trouver un chez-soi, être chez-soi.
Trouver un chez-soi, tu vois. Parce que je pensais d'être comme ça, d'être un peu sans... Oui, je ne savais probablement pas, même pas ce que ça veut dire, soi. Mais toujours un peu divisé, un peu dans le deux de la schizophrénie, à qui appartenir, à quoi appartenir, à quel pays, etc. Donc, le chez-soi et de créer ce chez-soi... C'est devenu pour moi très très important. Et d'ailleurs, j'avais une amie psychanalyste, Annelise Stern, qui était juive et qui a été à Auschwitz. Et à chaque fois quand elle venait chez moi, peu importe les lieux, elle disait, tu as quelque chose de formidable, tu crées des fonds de maison, comme un fond de veau, tu vois, un fond de sauce, quoi. Un fond de maison. Et c'est vrai, c'est pas... J'aime la beauté, hein, parce que il faut que, à mon goût, que ça soit beau. Et aussi pour la raison, parce que Heiner Müller, il a dit à un moment donné une phrase qui m'avait beaucoup bouleversée, la beauté écarte la frayeur. Donc, comme ma vision de l'Allemagne et du passé, etc., c'était plutôt du côté de la frayeur, j'avais comme ça l'intention de créer de la beauté pour cette raison-là, pour éloigner la frayeur. C'était un peu du vagabondage d'une maison à l'autre, avec une idée pour moi, c'était la Boissette, c'était un peu la Cerisée, non?
C'était où, les Boissettes?
C'est à côté de Melun.
En vous entendant parler, là, de la nécessité pour vous de trouver un chez-soi, une maison, Heimat, Je repense à notre conversation précédente, hier, sur les maisons d'édition. Et je me dis, vous avez aussi créé votre maison, on l'appelle ça comme ça, votre oui. maison d'édition qui porte votre nom.
Oui.
Ça n'est peut-être pas pour rien aussi.
Oui, oui.
Mais bon, ça c'est une parenthèse fermée.
Non, non, vous avez raison, bien sûr. Oui, oui, oui.
Alors d'où vous est venu, Marensel, ce désir d'Inde? Est-ce qu'il est venu de la littérature?
Je ne savais rien du tout de l'Inde, rien du tout, mais adolescente, parmi mes différentes lectures, il y avait Rabindranath Tagore, un grand poète de Calcutta. Et je me souviens que parfois, je marchais dans la rue, c'est le nom, Rabindranath Tagore. Enfin, je trouvais ça tellement magnifique que c'était comme un mantra, non, pour moi. Donc je me récitais son nom et j'avais l'impression déjà parti dans un ailleurs. Donc voilà. Mais après, ce qui était la réalité, c'est qu'avec mon mari, on voulait adopter un enfant. Il a deux grandes filles et trois filles. La nôtre, c'est Katia. Et on voulait avoir un autre enfant, ça n'a pas marché. Donc on a décidé d'adopter un enfant. Et on est parti en Inde pour trouver un enfant, en fait, voilà. Donc on a fait un peu tout l'Inde, les orphelinats, tout ça. Alors, j'ai compris que l'Inde, c'était un pays très fier, enfin la population très fière, parce que ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin des étrangers pour adopter des enfants indiens, que l'Inde est suffisamment riche pour adopter à l'intérieur de la population
pour s'occuper
indienne,
de ses propres enfants.
Ses propres enfants, voilà. Donc voilà, ça nous a fait découvrir l'Inde et aimer l'Inde. Et après, de retour à Paris, j'avais fait du yoga depuis un petit moment et je m'étais déjà intéressée au bouddhisme. Donc on a pu rencontrer le médecin du Dalai Lama et on a exprimé notre désir d'enfant. Et tout était merveilleux parce qu'il a dit, ah oui, vous, voilà, je vous comprends, mais je pense à quelqu'un. Alors, il faudrait que vous veniez en Inde, là. Je crois que la rencontre avec le médecin, c'était en novembre. Et en Inde, au mois de janvier, par exemple, je pense à un enfant. Mais il faudrait que vous veniez, après, on voit. Si l'amour se produit, on va faire tout pour que vous puissiez partir avec lui. Si l'amour ne se produit pas, mais vous oubliez et le garçon restera avec nous. Je trouvais ça un état d'esprit déjà tellement... Hein, il n'y avait rien, il n'a pas dit qu'il y a des trucs bureaucratiques, administratifs, etc. Ce qui était finalement arrivé aussi, évidemment. Mais la première motivation, c'était ça, si l'amour se produit.
Et l'amour s'est produit, vous êtes rentré avec
On est parti avec lui, voilà.
Ce petit garçon de 8 ans. Et cette expérience, vous l'avez racontée dans un livre qui s'appelle « La loi, c'est l'amour ».
Oui.
On comprend bien pourquoi.
Oui, voilà.
Vous racontez cette expérience à Dharamsala, au flanc de l'Himalaya, dans le nord de l'Inde, où vous êtes allé dans un asile de Tibétains qui a été...
Des réfugiés.
Des réfugiés, voilà, ouais. Persécutés par les Chinois. Et ce petit Kunga est un petit Tibétain. Oui. Vous êtes allé adopter là-bas. L'Inde, donc, ça a été le début pour vous de cette aventure indienne, parce que
oui.
Vous y êtes retourné, vous y avez vécu, vous avez même fait construire une maison.
Oui.
C'est un pays très important pour vous.
C'est un pays pour moi très important. Donc, on avait pendant des années déjà avec Georges, on était toujours retourné là-bas, etc. Et c'était en fait d'éprouver l'élasticité du cœur, je dirais, c'est-à-dire jusqu'où le cœur peut être élastique et accueillir d'autres visions du monde, d'autres religions, d'autres regards, d'autres, enfin tout différent, sans renier qui on est, parce que c'est pas du tout eux le demandent vraiment absolument pas. Alors que j'étais proche des bouddhistes, je me suis jamais dit bouddhiste parce qu'il faut pratiquer tous les jours, je le fais pas. Mais les gestes, leur gratitude, non? Le père de Kunga, qui n'avait rien du tout, il a trouvé pour nous une orange, il a mis l'orange dans sa main, et le geste de nous faire l'offrande de l'orange, c'était un geste solennel et absolument incroyable. Ça n'avait rien à voir avec les oranges qu'on achète au kilo. Il y avait une orange Il avait décidé qu'elle était pour nous. Et voilà. Beaucoup, beaucoup de gestes de cet ordre-là qui m'ont convaincu que c'est agréable d'être avec eux et d'apprendre d'ailleurs d'être peut-être plus humble et plus compatissant.
C'est devenu un pays de cœur. Vous êtes allé chercher l'élasticité du cœur. Peut-être un décentrement aussi. Vous essayez de comprendre dans votre livre Tout est là ce que vous avez appris de ce pays, de vos séjours. C'est intéressant parce que vous donnez quelques clés de compréhension de cet amour pour l'Inde. Par exemple, vous dites l'esprit indien semble être contraire à l'idée d'accélération. Oui, enfin, vous dites des choses étonnantes qu'on ne penserait pas, peut-être quand on ne connaît pas l'Inde non plus. J'aimerais bien que vous nous en donniez quelques-unes.
Mais écoutez, notre mode de vie, notre vie capitaliste, enfin, dans un système capitaliste, nous oblige et nous précipite de plus en plus. On est stressé, il faut avoir le temps pour gagner plus d'argent, pour avoir plus d'objets, pour avoir tout ça. Voilà. Donc il y a une accélération qui au détriment en fait de la réflexion et de la, enfin, disons, d'une activité du cœur.
L'Inde est-elle en dehors du capitalisme?
Ah mais non, mais malheureusement maintenant, mais l'Inde
que vous avez connue,
que j'ai connue, mais qui maintenant j'ai connu des gens. Et avant d'être devant leur ordinateur, ils ont fait un rituel avec leur dieu, non? Donc ils ont des cris-cris, ils ont des points blancs sur le front, ils ont voilà, ça existe en même temps. Et pour moi là, je me suis dit, mais si l'Inde peut intégrer le capitalisme d'une autre façon que nous l'avons fait, ce sera vraiment merveilleux. Alors malheureusement, bon, il y a maintenant aussi des problèmes.
Vous trouvez quand même des explications symboliques, disons, à des gestes du quotidien qui, là encore, sont surprenants. Je pense à ce que vous dites du balancement de la tête.
Oui, oui.
Qu'est-ce que c'est?
Ça, c'est dans le pays Tamoul, donc c'est dans le sud, enfin, dans le nord aussi, mais moi, je le connais par le sud. Mais ils disent jamais ce que j'ai essayé de faire comprendre par quelques anecdotes. Vraiment oui ou vraiment non. Non, ils sont dans une sorte de balancement, d'incertitude, donc on peut comprendre ce qu'on veut. Parfois c'est pourquoi pas, parfois c'est oui, peut-être, enfin bon.
C'est leur ni oui ni non.
Oui.
C'est pour ça que vous dites c'est un pays où tout est à la fois possible et impossible.
Voilà, c'est ça. Voilà, ouais.
Ils sont dans un état de disponibilité permanente, mais ils provoquent rien.
Ils provoquent rien, c'est ça, non. Mais c'est aussi de leur... parce que nous, on a une pensée linéaire, non? Voilà, droit au but. Eux, ils pensent tout en cercle. Hein. Enfin, c'est un système de pensée. C'est comme l'éternel retour de Nietzsche. Hein. C'est-à-dire ça circule et puis ça, ce qui est perdu d'un côté va revenir de l'autre jusqu'à la pensée de la réincarnation. Hein. Même quand je dis à mes amis, ou quand mes amis me disent non, on ne veut pas y aller parce que les mendiants, les handicapés, etc., etc., mais les mendiants, ils ne sont pas si malheureux que ça, parce que s'ils sont mendiants dans cette vie, ils sont à peu près sûrs que dans une prochaine vie, ils seront autre chose, quoi. Hein. Oui. Donc c'est tout à fait très, très, très différent, tout ça.
Bon, en même temps, vous n'êtes pas, Marianne Salle, dans l'idéalisation de ce pays. D'ailleurs, vous avez été confrontée à la réalité. La réalité qui est parfois la violence du monde. Vous étiez à une époque où les tigres tamouls étaient là-bas aussi, là où vous viviez à Pondichéry. Les tigres tamouls revendiquaient l'indépendance de certaines régions du Sri Lanka et la revendiquaient par la lutte armée. Et vous vous êtes retrouvé un peu au milieu et c'est un peu ça qui vous a obligé à partir.
C'est comme si j'ai attiré la lutte armée parce que
j'allais pas vous dire, je ne sais pas
non,
vous dire.
Mais voilà. Non, mais c'est pas du tout le cas. Alors pourquoi j'ai construit une maison? On a construit une maison en Inde, à côté de Rouville, donc à Pondichéry. C'est parce que mon mari est tombé très très malade en 2009. Et il m'a fait comprendre qu'il voulait mourir en Inde. Non, je suis allée, il était dans une maison de retraite, et je suis allée voir la directrice. J'ai dit, est-ce que vous serez d'accord que je pars avec lui en Inde? Et elle a dit, oui, parce qu'ici on fait ce qu'on peut, mais eux, ils font mieux. Donc, si vous pouvez le faire, ce sera très très bien pour votre mari d'être en Inde, parce qu'en plus, il le souhaite. Donc, on est parti en Inde, et Georges, il a... avec moi, on a construit cette maison. Il n'était jamais revenu en France, il est resté dans la maison qu'on avait construite ensemble, et il est mort dans cette maison. Voilà. Donc l'Inde, pour moi, ça charrie énormément de choses.
Je disais Momo en Inde. Vous avez parlé de l'Inde où donc repose désormais Georges et où peut-être vous irez. Mais Momo, c'est aussi donc la grand-mère que vous représentez aujourd'hui, marraine, pour vos 10 petits-enfants. Vous dites que vous avez, par exemple, dans votre idée et votre désir de transmettre, vous avez, pour vos petits-enfants, ouvert un compte à votre nom dans une librairie qui était à côté de la maison de la place des Abbesses pour que vos petits-enfants en profitent. Donc cette transmission passe d'abord, en tout cas, par le goût de la lecture.
Je voulais que, qu'ils aient le goût de la lecture, ça c'est évident, non?
Et ça marche comme ça, par un compte ouvert où ils vont acheter des livres.
C'est formidable parce que c'est eux qui choisissent à partir d'un certain âge. Moi, j'ai parfois fait un mixte. Pour Noël, j'ai acheté des livres que je pensais être bien pour eux de lire, et très souvent ils étaient contents de ça. Mais quand ils avaient des idées, eux, pour des livres, ils pouvaient y aller sans que ça passe par mon contrôle, seulement par mon porte-monnaie. Bon. Et c'est une très bonne relation qui s'est établie à cause de cela. Je leur ai transmis autre chose, donc je suis assez fière aussi. Comme je faisais depuis des années du yoga, à un moment donné, je les ai motivés pour faire du yoga, pour apprendre à faire du yoga. Et là maintenant, ils sont tout le monde en fait. Pas aussi intense peut-être que moi.
Vous faites ça ensemble, en famille?
Non, on fait pas ensemble. Non. Mais quand on fait du yoga, enfin bon, maintenant malheureusement à Paris, c'est beaucoup plus superficiel qu'en Inde, parce qu'en Inde, il faut étudier l'arbre du yoga. Donc ici, c'est un peu comme une gymnastique, un peu avec le pilates et tout ça. Mais en Inde, c'est très très sérieux. Il y a l'arbre du yoga. Donc ça commence avec les asanas, ce qu'ils appellent les asanas, donc des postures. Après, il faut faire des exercices de concentration. Il faut faire des exercices de compassion et de méditation. Et à la fin, et c'est là où nous, les Occidentaux, on est beaucoup moins bien équipés, alors que eux, ils sont très forts dans ça. La dernière branche de l'arbre, c'est la dévotion. Et moi, j'ai aucun problème pour ça. Je suis, comme j'ai eu plusieurs figures là, à partir de mes profs dans le lycée, en passant par Hélène Cixous, Stéphane Hessel. Je suis dans des exercices d'admiration absolument sans problème. Et ça peut aussi facilement être de la dévotion. Voilà, pour moi, c'est très facile.
Alors, en dehors du yoga familial, hein, Marine Seul, dans le dialogue que vous pouvez avoir avec vos enfants, vos petits-enfants surtout, je pense, dans les échanges que vous avez, quel regard portez-vous sur votre génération? Et quel regard porte-t-il et elle sur votre génération? Je dis ça parce que je vous pose cette question parce que dans Tout est là, vous n'êtes pas très tendre en même temps. C'est très émouvant le regard que vous portez sur toute cette période qui a été votre vie, la vôtre. Mais cette génération, vous n'êtes pas très tendre en ce sens que vous vous dites... Votre génération a porté et a dit le plus jamais ça. Vous avez voulu bien faire, tout bien faire. Vous avez voulu construire la paix pour que le fascisme ne puisse plus jamais se produire et se reproduire. Et pourtant, ça recommence, dites-vous. Alors, est-ce que c'est un échec de votre génération? Est-ce que vous vivez comme ça? Est-ce que vos petits-enfants vous en parlent comme ça? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui?
Moi, j'ai été très... blessé ou choqué, ou un jour où un de mes petits-enfants m'a dit que notre génération a j'étais une génération de gens frivoles. Et j'étais très très étonnée quand on nous voit comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je voulais corriger, parce que la frivolité, c'est vraiment la légèreté, et c'est le manque d'attention au monde, en fait. Et c'est même pire que la légèreté, c'est la futilité,
presque.
Quoi. C'est la futilité, bon. Et moi, je voyais notre génération pas du tout comme ça, parce que qu'est-ce qui me venait à l'esprit quand ils ont dit frivole? J'ai pensé à Marlène Dietrich, non? Marlène Dietrich, qui d'ailleurs, moi aussi, d'ailleurs, de temps en temps, je dansais sur des tables, non, dans les bistrots, etc. Mais elle faisait beaucoup. Et elle était, voilà, on peut dire, dans le registre de la frivolité. Mais une frivolité qu'elle acceptait pour, par exemple, chanter devant les soldats américains, etc., quoi. Et moi, je trouve que notre légèreté, ou je sais pas, enfin, frivolité, entre guillemets, on n'a jamais était dans une suffisance de cette frivolité. On a été peut-être plus joyeux que la génération aujourd'hui, probablement, mais il faut dire que c'était plus facile la vie à cette époque-là. Mais on n'était pas dans une perte de sens. Hein. Parce qu'encore aujourd'hui, là, quand je vais dans les manifs, mais je vois les mêmes que je voyais dans les manifs, maintenant ils sont évidemment vieillis, mais ils sont toujours là. Et ils sont là pour les pétitions, ils sont là, et ils n'ont pas perdu le rapport au monde, non? Donc la frivolité, non, je veux pas qu'ils nous voient comme ça. On était très grave dans nos comportements par rapport aux transformations capitalistes du monde, quoi. Voilà. Donc la lecture, c'est pour apprendre la complexité de ce monde et des êtres.
Mais sur le retour au fascisme, vous dites que ça recommence. Vous n'avez pas réussi, votre génération.
On n'a pas réussi, non. Mais je ne sais pas si c'est notre génération. Je pense que c'est la génération juste après. Parce que qu'est-ce qui se passe avant le fascisme? C'est, bon, une perte de sens, ça c'est une sorte comme ça, nihiliste du monde. Et c'est les réseaux sociaux, c'est pas nous les réseaux sociaux, c'est pas du tout ma génération. C'est-à-dire cet appauvrissement du sens des relations entre les êtres, non? Ça devient pauvre, la vie en commun devient pauvre, parce qu'il y a en dehors de se regarder, en dehors de, ça ne vibre beaucoup, beaucoup moins que, c'est pauvre, ça devient pauvre, ça se rétrécit, le monde aussi se rétrécit, bientôt on ne pourra plus prendre l'avion, et on voit très bien ce qui se passe maintenant, hein, actuellement. C'est le retour du populisme et le retour du fascisme. Non, on n'a pas pu éviter, mais je pense pas. Nous, on était quand même en permanence vigilants. On est resté vigilants, moi, je trouve. Je ne crache pas du tout sur aucun de ma génération.
On enregistre ces émissions, Marine Zell, au début de l'année 2025. Vous venez de fêter votre 80e anniversaire. Dans quel état d'esprit avez-vous fêté cet anniversaire?
C'est pour retrouver de l'humain, en fait, non? Parce qu'on est tellement averti par, évidemment, ce qui se passe dans le monde. On a l'impression que, enfin, quand on voit les nouvelles barbaries dans les guerres, c'est l'inhumain qui est en train de prendre le dessus sur l'humain. Et moi, j'aime les humains. Et donc je voulais faire cette fête pour qu'on retrouve le lien, non, qu'on ne perde pas le lien. Et je trouve que la vieillesse aussi, c'est une occasion merveilleuse finalement d'une grande tolérance, non. On voit les choses avec un œil de tendresse beaucoup beaucoup plus que peut-être autrefois. On avait un peu des cases, non. Donc il y avait des bons et on excluait d'autres, etc. Et là, en Inde, par exemple, ce que j'ai vu aussi, c'est que le lien entre les générations. Ici, les vieux, par exemple moi, non, 80 ans, on les met plutôt à l'écart. Enfin, on a tendance à les mettre à l'écart. En Inde, c'est impensable. C'est-à-dire, vous avez une maison, vous avez les très vieux, les vieux, et ils gardent les tout-petits, et cette cohésion communautaire ou familiale, ou tendre en tout cas, c'est magnifique, parce que les vieux, ils ont peut-être pas la grande sagesse, mais ils ont vécu des choses qu'ils peuvent transmettre aux enfants. C'est bien. Ça, c'est de l'humain, que ça reste comme ça, qu'on ne sépare pas les uns des autres.
Qu'est-ce que c'est que cette idée, Marensel, que vous allez mourir à 89 ans, un dimanche, pendant la saison des pluies?
Mais c'est merveilleux. Non, ça, c'est un... il y a des villages comme ça, où c'est pour les prédictions, et j'ai fait ça.
Et vous y croyez?
Ben, je ne sais pas si j'y crois. En tout cas, même si c'est une illusion totale et tout à fait improbable. Mais ça m'a fait du bien. C'était vraiment comme la pluie chaude, non? Sur la peau. Je me suis dit, bon, voilà, donc ce sera en Inde, ce sera un dimanche, c'est toujours bien. C'est le jour du Seigneur. Et les pluies chaudes, donc ce sera très doux. Il faut dire, bon, l'enterrement ou la mort de mon mari, ça ne pouvait pas être plus doux. Alors, c'était pas la pluie. Mais autour de nous, des gens qu'on connaissait à peine, les chrétiens, mais ceux là, voilà, les chrétiens, les hindous, les bouddhistes, ils sont tous venus veiller Georges et de rester avec lui le temps qu'il faut, parce que pour les Tibétains, il faut 49 jours, le bardo, pour que l'âme puisse convenablement se séparer du corps. Le corps, il est parti. Mais l'âme reste, et pour que l'âme soit tranquille, il faut 49 jours. Donc c'est des cérémonies, des rituels. Mais voilà, moi j'aime bien.
Bon, c'est une belle décennie qui s'ouvre à vous,
bien,
Anna. Vous vouliez, je crois, nous lire quelques lignes de Rilke.
Oui, c'est-à-dire dans mon livre « Tout est là », je commence avec Rilke, parce que c'est un de mes grands potes en littérature. Donc, sur la première page, c'est « Sur quel instrument sommes-nous accordés et quel virtuose nous tient dans sa main, ô douce chanson ?»
On aurait pu parler aussi de musique un peu plus, puisqu'on a commencé ces premiers épisodes en évoquant les dialogues, les échanges que vous aviez avec votre père sur la musique. La musique a énormément compté toute votre vie, Marensel. Et la musique est présente aussi dans ce livre de souvenirs, de parcours sentimental, politique, personnel et professionnel qui est « Tout est là ». Et les derniers mots de « Tout est là » m'ont évoqué, c'est peut-être volontaire, un air célèbre de musique baroque de Purcell. Ces mots, c'est « Remember me ». C'est ce que vous avez choisi comme mot pour fermer votre livre. On pourrait peut-être choisir ça pour terminer ces entretiens. Remember me, Didon est né, et on va choisir l'interprétation par Andreas Scholl pour vous faire plaisir.
Ah, et à vous aussi. C'est un plaisir qu'on partage.
Merci beaucoup pour ces 5 entretiens, Marensel.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue avec Marensel, réalisation Gaëlle Gilon, prise de son Florent Layani, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.